Le Mahabharata est un grand poème épique indien, écrit en langue sanskrite vers les débuts de notre ère, mais qui rassemble les traditions orales beaucoup plus anciennes. C'est une œuvre capitale pour la civilisation indienne. Elle s'y retrouve tout entière et c'est un océan d'histoire. Beaucoup de contes de toute nature en proviennent. Le poème est énorme. Il est à peu près 15 fois plus long que la Bible. Ce qui fait qu'il faut à peu près 2 valises pour le transporter. On le trouve sur les trottoirs des villes de l'Inde sous forme de bande dessinée. On en a fait des films, des séries de télévision, des quantités d'adaptations même modernes. On peut dire que c'est le livre de l'Inde. Pour le raconter en 1 heure ou un peu plus d'une heure, pour en raconter l'essentiel, il faut évidemment que j'élimine certains des méandres de cet immense fleuve qui va nous entraîner dans des territoires peu connus, mais qui sont des territoires, sinon originaux, en tout cas originels, c'est-à-dire desquels une civilisation tout entière, une pensée, un mode de vie sont nés et se perpétuent. Le Mahabharata est un poème très conscient de sa valeur. Il ne cesse de dire que tout ce qui se trouve dans le Mahabharata se trouve ailleurs, et que ce qui ne s'y trouve pas ne se trouve nulle part. Inutile de le chercher. C'est aussi pour nous peut-être l'occasion de vérifier 2 choses aujourd'hui. La première, une constante affirmation de la pensée indienne qui veut que la transmission orale, que je vais essayer de rendre aujourd'hui, est plus fidèle, plus précise que la transmission écrite. Et la seconde, pour en revenir à l'autosatisfaction affirmée du Mahabharata, c'est que ceux qui écoutent ce poème, ou le lisent, et à plus forte raison ceux qui le racontent, à la fin s'en trouvent meilleurs. Alors c'est l'occasion pour nous de vérifier si un petit changement va s'opérer en nous dans l'heure qui suit, et si ce changement aura lieu dans le bon sens. Je rappelle que les qualités que le poème se reconnaît à lui-même ont été reconnues par d'autres. Pour n'en citer qu'un, Henri Michaux, notre grand poète, a dit « Vous raconteriez cette histoire à un vieux bâton, il reprendrait feuilles et racines. » Qu'il n'en soit pas ainsi. Le Mahabharata, qu'est-ce que ça veut dire? Maha, en sanskrit, veut dire grand. Un Maharaja, c'est un grand roi. Mais tout en ayant le sens de grand par la stature, par le volume, il a aussi le sens de total. C'est-à-dire que c'est le grand total Bharata. Bharata est un nom de famille, c'est la grande histoire des Bharata, de la tribu des Bharata. Par extension, le mot Bharata a très vite signifié indien, et par autre extension, tout simplement homme, espèce humaine. Donc, c'est la grande histoire de l'homme. Encore une preuve de l'immense confiance en soi qu'affiche ce poème. Donc, soyons prêts, nous partons. Il y avait une fois un saint homme qui s'appelait Vyasa, qui était un ermite, ce qu'on appelle un rishi dans la tradition indienne, et un grand maître, quelqu'un qui avait renoncé au bien de ce monde, qui vivait d'errance et de mendicité, et qui était un très grand poète. Vyasa, un jour, affirme qu'il a composé dans sa tête le grand poème du monde, celui dont nous avons tous besoin, celui sans lequel nous ne saurions vivre convenablement. Mais il ne sait pas écrire. Il est un aède analphabète. Il l'a composé dans sa tête, comment le transmettre aux humains? Brahma, un des 3 grands dieux du panthéon indien, entend cette plainte et lui envoie un dieu comme scribe. Ce dieu, c'est le fameux Ganesha, celui qui a une tête d'éléphant, qui est le dieu des écrivains, des artistes, généralement également des voleurs, des danseurs. Il est le fils de Parvati, l'épouse de Shiva, un des autres grands dieux indiens, enfant que Parvati a eu toute seule, sans l'intervention de Shiva. Shiva lui a coupé la tête un jour en rentrant chez lui et en le trouvant en train de défendre sa mère qui prenait un bain. Il ne savait pas qui était cet enfant, qui lui résistait farouchement. Par une ruse, il lui a coupé la tête. Sa mère, Parvati, est sortie furieuse de son bain et a menacé de maudire la création tout entière. Et Shiva lui a dit « Non, non, arrête, je vais lui donner la tête de la première créature qui passera sur le chemin. » C'était un éléphant, d'où la création de cet être métamorphosé, hybride et merveilleux qui s'appelle Ganesh. Ganesh arrive et dit à Vyasa, voilà, je suis à ta disposition, j'ai mon grand cahier, je m'arrache la défense droite pour me servir de plume, je la trempe dans de l'encre et j'attends les débuts palpitants de ton récit. Mais je te préviens, tu ne dois pas t'arrêter en cours de route. Tu ne dois pas t'interrompre, tu dois tout me dire d'une traite, même si c'est très long. Et Vyasa lui répond, d'accord, et toi, de ton côté, tu dois t'engager à ne rien écrire que tu n'aies pas compris. Les voilà tous les deux au travail, ça la fait partie du poème, c'est-à-dire le poète raconte l'histoire même de l'auteur, très étroitement imbriquée avec l'histoire qui va commencer. Cette histoire commence par, comme toute histoire, par des origines mythologiques, sur lesquelles je vais passer rapidement, elles ne nous intéressent pas directement. Il y a d'abord toute l'histoire des générations, des rois, des rapports entre ces rois et tel ou tel dieu qui vont nous conduire aux personnages principaux. La première extraordinaire cocasserie qui se passe entre ces deux personnages est qu'à un certain moment de son récit, Vyasa se trouve avec, dans cette famille des Bharata, deux personnages qui restent, qui sont deux jeunes princesses qui n'ont plus d'époux car leurs deux époux de jeunes rois viennent de mourir. Alors, Ganesha, le scribe, dit à Vyasa, mais alors ton grand poème, tu nous annonçais que tu allais nous chanter le grand poème du monde, tu as commencé à peine depuis 10 minutes, il est déjà arrêté parce que tu n'as plus de personnage. Et Vyasa est très embêté, car il n'avait pas prévu ça, semble-t-il, il a commis une erreur d'auteur. Alors, il dit, attends, il y a d'autres hommes dans la famille, nous allons demander à Bhishma. Bhishma est un grand-oncle, personnage très glorieux, très grand combattant, de faire des enfants aux princesses. C'est très simple, et mon histoire pourra continuer. Il se trouve que Bhishma, personnage très inébranlable, a fait le vœu, pour des raisons qu'il serait trop long de raconter ici, de ne jamais toucher une femme de sa vie. Et ce vœu, dit-il, est le pilier de ma vie. Je ne peux absolument pas le briser, même si le sort du grand poème du monde est en jeu. Alors, il se trouve là une femme qui est Satyavati, qui fait également partie de la famille, qui se tourne vers l'auteur, car l'auteur est en train de parler avec ses personnages, et qui lui dit, mon cher Vyasa, je ne vois que toi pour faire des enfants aux princesses. Et en effet, l'auteur lui-même, l'auteur du poème, va devoir s'accoupler nuitamment, secrètement, avec les deux jeunes princesses. Ça ne se passe pas très bien, car c'est un personnage qui a l'habitude de courir dans les bois, il est couvert de boue, il est sale, il sent mauvais, il n'a absolument rien de séduisant. Et quand la première princesse le voit s'approcher de sa couche, elle ferme les yeux. Lui, qui est un personnage assez redoutable, lui dit « Bon, je vais te faire un enfant, c'est entendu, mais comme tu as fermé les yeux en me voyant, ton fils naîtra aveugle. » Quant à la seconde princesse, ayant entendu parler de ce qui est arrivé à la première, elle est sur ses gardes, elle se méfie. Quand elle voit arriver Vyasa, elle garde bien les yeux ouverts, mais elle ne peut pas s'empêcher de pâlir, de blêmir à sa vue. Il le remarque et il lui dit « Tu auras un fils, toi aussi, mais il naîtra pâle et blanc, étrangement blanc, et on l'appellera Pandu, qui veut dire le pâle. » Voilà les deux premiers personnages essentiels de notre histoire, ces deux frères, deux demi-frères, qui sont à la fois les héros et les enfants de l'auteur. Je crois que c'est le cas unique dans l'histoire de toute la littérature mondiale. Donc, ces deux garçons naissent, l'aveugle s'appelle Dhritarashtra, il est le premier-né, donc il est le plus grand des deux rois, et l'autre s'appelle Pandu. Ces deux rois vont avoir, l'un et l'autre, des enfants. Et le Mahabharata, tout entier, va être l'histoire d'un immense conflit qui va se développer entre ces deux groupes de cousins. Les fils de Pandu, qu'on appelle les Pandavas, du nom de leur père, qui sont 5 frères, et les fils de Dhritarashtra, qu'on appelle les Kaurava, et qui sont 100 frères. Alors, il est très tentant pour nous de dire le bien est d'un côté, le mal est de l'autre, les blancs sont ici, les noirs sont là. C'est un peu plus compliqué. Les Pandava et les Kaurava ne sont pas forcément tous blancs et tous noirs. Il y a du bien et du mal des deux côtés, comme le poème se plaît à le dire assez souvent. Il se trouve que les Pandava représentent davantage un des mots-clés sur lesquels je vais devoir donner une petite explication de l'ensemble du poème, qui est le dharma. Qu'est-ce que c'est le dharma? À un moment donné, un des personnages demande à Vyasa: « Pourquoi as-tu composé ce poème? Quel est ton but? Pourquoi tous ces efforts ?» Et Vyasa répond: « J'ai composé le Mahabharata pour inscrire le dharma dans le cœur des hommes. » C'est donc une notion essentielle, très importante. Le dharma n'a pas de traduction en français direct. On traduit par le droit chemin, par le devoir, par la cohérence du monde. C'est en réalité un concept très indien. C'est l'ordre du monde, celui qui fait aller les étoiles, les univers, les planètes, les plantes, les nuits, les jours. C'est en même temps la règle morale qui oblige chacun de nous à suivre le droit chemin dans la fonction qu'il a choisie. C'est ça, suivre son dharma, le reconnaître d'abord, le suivre ensuite. La grande originalité de la pensée indienne est de dire que le dharma du monde dépend de l'observance de chacun des dharmas individuels. Autrement dit, que nous sommes responsables de la bonne marche du monde. Que si, à notre niveau, quelque chose nous échappe, quelque chose est détruit, cette destruction aura des répercussions dans l'univers tout entier. Quelquefois, quand on demande aux grands spécialistes du Mahabharata, y a-t-il une phrase dans le poème qui puisse le définir? Ils répondent oui. C'est une phrase qui est dite à un moment donné par un personnage dont je n'ai pas encore parlé, mais qui naturellement sera au centre du poème et qui est Krishna. Et cette phrase est la suivante: le dharma, quand il est protégé, protège. Quand il est détruit, il détruit. C'est donc ce sentiment d'une solidarité entre le monde et nous qui est au centre du poème. Or, au moment où ce grand conflit, que je n'aurai pas le temps de raconter en détail, car il se compose de multiples batailles, exils, tournois, rivalités de toutes sortes, attentats même, embuscades, trahisons, quand ce grand combat va se déclencher, il se passe sur notre planète tout entière comme un immense frémissement. La Terre, dans la mythologie indienne, se dit Bhumi, c'est une déesse. Et cette déesse, de temps en temps, prend la parole. Elle prend la parole au début du poème, quand un personnage lui demande: Que veux-tu nous dire? Pourquoi trembles-tu? Pourquoi frissonnes-tu? Et elle répond: Parce que j'ai peur. J'ai peur parce que je me sens chaque jour piétiné par les pas innombrables d'hommes de plus en plus arrogants. Et je me demande quel mal font-ils encore me faire demain. Donc, cette inquiétude de la terre qui est amplifiée, qui est décuplée par le fait que les personnages qui vont s'affronter, nous aurons l'occasion d'en parler, sont des guerriers redoutables et qui possèdent de part et d'autre des armes d'extermination, risquent par leur conflit de mettre en danger l'univers tout entier. C'est-à-dire qu'il est dit à un moment très beau du Mahabharata que pendant la bataille, même les herbes tremblent de peur, car toute vie peut disparaître. Donc, nous sommes là au début du poème, au début de ce conflit qui se développe chez les deux groupes de cousins dès leur enfance. Je dis un mot des 100 Kaurava, ou plutôt de deux d'entre eux, l'aîné, qui s'appelle Duryodhana, le dur à vaincre, c'est ce que veut dire ce mot, et qui va être le personnage avide, ambitieux, plein d'énergie, plein d'habileté, qui va tout faire pour conquérir l'empire du monde, et pour le conquérir au détriment de ses cousins. Il est assisté de son âme damnée, qui s'appelle Dushasana, et qui est le second des 100 frères. De l'autre côté, faut nous attarder un peu plus sur les 5 frères Pandava, ou tout au moins sur 3 d'entre eux. Le premier est au cœur de l'œuvre, il en est le personnage central. Il s'appelle Yudhishthira et il est le fils de Dharma. Car Dharma, cette notion dont je parlais, est lui-même un dieu. Donc Yudhishthira est né d'une relation non pas coupable entre la femme de Pandu, qui s'appelle Kunti. Pandu ne pouvait pas avoir d'enfant, sinon il mourrait du même coup. Donc, par un subterfuge, ces deux femmes ont eu des enfants avec des dieux. Donc, le premier-né, Yudhishthira, est le fils de cette Kunti, une des deux épouses de Pandu, et du dieu Dharma. Et étant le fils de Dharma, il est, comme on dit en sanskrit, Dharma Raj, c'est-à-dire Dharma roi. Le bien, le Dharma, pour une fois, s'est incarné dans la personne de quelqu'un qui est digne d'être roi. Il est le roi parfait, le roi désigné. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas envie d'être roi, du tout. La seule ambition de Yudhishthira sera de se retirer dans la forêt, de vivre en ermite, loin des honneurs, loin des richesses, et il va saisir toute occasion de le faire au long du poème. C'est une des contradictions passionnantes dont on ne peut pas venir à bout par l'analyse quand on considère ce personnage et qui est au centre même de l'œuvre. Quelqu'un a toutes les qualités pour remplir un rôle, sauf l'ambition de tenir ce rôle. Alors, il est aidé par le très célèbre Arjuna, qui est le second des cinq frères, le meilleur combattant du monde, disons les choses simplement. C'est un archer célèbre, il a un arc magique qui s'appelle Gandiva, qui ne saurait manquer sa cible. Depuis son enfance, tout le conduit à être un jour le commandant suprême, nous dirions aujourd'hui, des armées des Pandavas. Le troisième, qui s'appelle Bhima, est l'homme le plus fort du monde. C'est un peu l'Hercule ou le Samson indien, un personnage irrésistible, tout d'une pièce, admirablement naïf, et qui est le fils du dieu Vayu, qui est le dieu du vent, Arjuna, étant le fils de Indra, qui est le roi des dieux. Ensuite, il y a deux autres frères, qui sont deux jumeaux, qui sont les deux fils de la seconde épouse de Pandu et qui joueront un rôle un peu plus effacé dans l'histoire. Je situe d'abord donc les personnages. Pendant leur jeunesse et avant que commence le conflit, ils participent, comme il est d'usage chez des jeunes princes, qui poursuivent une éducation complète, y compris une éducation militaire. Ils ont un grand maître qui s'appelle Drona, qui est le chef des armées, l'homme qui connaît absolument toutes les techniques de guerre, y compris les arts martiaux, y compris les techniques magiques, les techniques surnaturelles, qui possède des armes capables de détruire toute vie sur la terre. Il est le maître d'armes à la fois des Kauravas et des Pandavas. Au cours d'un des tournois auxquels il participe, Arjuna, qui est très fort déjà, peut avoir 18 ou 20 ans, gagne le premier prix. Et ce premier prix, c'est une princesse qui s'appelle Draupadi. Elle va jouer un rôle essentiel dans notre histoire. Elle est une femme d'une immense beauté, incomparable. On l'appelle l'étoile des femmes. Et Arjuna, très content, la ramène à sa mère et à ses frères. La scène est très curieuse, car sa mère est en train de faire la cuisine, elle tourne le dos à la porte. Arjuna rentre et dit à sa mère, « Mère, regarde ce que j'ai gagné. » Sans se tourner, sa mère, Kunti, lui dit, « Tu partageras avec tes frères. » Mais, lui dit Arjuna, « C'est une femme. » Elle se retourne, voit Draupadi, elle dit, « Qu'est-ce que j'ai dit ? » ?»« Tu as dit, tu partageras avec tes frères. » »« On ne peut pas retirer ce que j'ai dit, » dit Kunti, « car je suis incapable de proférer quelque chose qui n'est pas une vérité. Ce que j'ai dit est vrai. » Et sur le champ, en une scène tout à fait étonnante, Draupadi épouse les cinq frères. Elle va, pendant toute sa vie, passer une semaine successivement avec chacun d'eux, elle aura des enfants avec chacun d'eux, et elle sera, sauf à quelques occasions, non pas un objet de dispute, mais comme il est dit souvent dans le texte, un ciment profond entre les cinq frères. Enfin, avant que la bataille commence, je dis un mot de celui qui est au centre spirituel du poème et qui s'appelle Krishna. Krishna est un avatara du dieu Vishnu. Il faut que je m'explique un peu, ce sont des mots un peu compliqués. Dans les trois grands dieux indiens, Brahma est le créateur, il ne joue qu'un rôle si j'ose dire, épisodique, c'est-à-dire qu'il crée le monde en une fraction de seconde et puis il se rendort. Il crée le monde plusieurs fois, car la conception de l'histoire du monde est cyclique en Inde. Et puis le reste du temps, il dort quand il le faut, on le rappelle, il recrée le monde et se rendort. Il se rendort, c'est assez beau d'ailleurs, et il rêve. Et il rêve pour, dans son sommeil, ne pas oublier les beautés de la terre, quand il devra la recréer. Le second de ces dieux, je l'ai déjà évoqué, c'est Shiva. Shiva est le dieu inévitablement destructeur. Dieu danseur, dieu séduisant, dieu ermite aussi, grand maître du yoga, personnage énigmatique, complexe, un des dieux les plus étranges qui soit jamais sorti de l'imagination humaine, qui nous dit que tout ce qui a été créé devra être détruit. Il est donc là pour veiller à la destruction des choses, et quand il apparaîtra dans le Mahabharata, ce sera toujours pour pousser les combattants à se servir de leurs armes les plus redoutables. Car il est là pour que les yugas, c'est-à-dire les grandes périodes de temps, se terminent. À côté de lui, il y a le dieu Vishnu qui est précisément le contraire. Vishnu est le dieu qui maintient. C'est le mainteneur des mondes. Il est très puissant, très solide, et il est le principe même de la cohérence des choses. Donc, chaque fois que, parmi nous, quelque chose ne va pas, qu'un grand danger menace, comme c'est le cas au début du Mahabharata, et que ce danger menace non pas du tout telle ou telle famille ou tel clan, mais menace la vie tout entière, Vishnu descend, c'est le sens du mot avatara, c'est une descente, descend parmi nous sous une forme pas nécessairement humaine, sous une forme terrestre. Il est descendu sous la forme d'une tortue, d'un sanglier, d'un homme à tête de lion. Il est déjà descendu sous la forme du grand héros Rama. Et là, pendant le Mahabharata, il descend sous la forme de Krishna. C'est-à-dire qu'il y a au début de l'histoire un personnage qui apparaît dans l'hindouisme pour la première fois. Dans le Mahabharata, on ne le connaît pas. Toutes les histoires que l'on racontera plus tard sur l'enfance de Krishna, comment il volait des confitures, et puis plus tard sur ses rapports avec les gopis, les fameuses gardiennes de vaches, tout ça viendra beaucoup plus tard. Quand il apparaît pour la première fois en Inde, il est déjà adulte, il n'est pas roi, mais il est frère de roi, et il a la réputation d'être le plus sage des hommes. Certains murmurent même qu'il serait l'avatara de Vishnu, qu'il serait Vishnu descendu parmi nous. Il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais prouvé. Il garde là-dessus son mystérieux sourire. Il est l'ami intime des Pandava. Il est même, d'une certaine façon, le beau-frère d'Arjuna. Ils ont à peu près le même âge. Maintenant, je vais directement à la scène qui va déclencher le conflit. Les deux groupes de cousins se sont partagés l'empire du monde. Mais Duryodhana, l'aîné des 100 frères, est terriblement jaloux du royaume très prospère que Yudhishthira dirige, Yudhishthira et ses frères. Très prospère et très paisible. Il est dit même, dans quelques phrases très belles, que un bon roi attire la pluie et favorise les moissons. Toujours ce sentiment d'une totalité, d'une solidarité entre les différents éléments qui peuplent le monde. Il n'a aucun vrai prétexte pour attaquer son cousin. Mais une sorte de personnage étrange qui traîne dans le palais, qui s'appelle Shakuni, et qui est ce qu'on pourrait rencontrer dans un western comme un joueur professionnel de poker, assez tricheur, comme ça, vient voir Duryodhana et lui dit, tu sais, Yudhishthira, c'est un type très bien, il a toutes les qualités, c'est le fils de Dharma, bien sûr, mais il est comme tous les humains, il a un défaut. Quel défaut, lui dit Duryodhana, mais il aime le jeu. Ah, il aime le jeu par-dessus tout. Défaut double, dit Shakuni, parce que il aime le jeu et il ne sait pas jouer. Invite-le à ton palais, je jouerai à ta place, moi. Les secrets des dés me sont tous connus. Jamais personne n'a pu me battre, c'est le plus habile joueur du monde. Je jouerai à ta place et je lui gagnerai tout ce qu'il possède, sans aucune guerre. Sitôt dit, sitôt fait, on invite Yudhishthira qui arrive avec ses quatre frères, leur femme commune, toute sa suite, c'est un très très grand roi. on commence à jouer. Il est un peu surpris de voir que c'est Shakuni, dont la réputation est épouvantable, qui joue à la place de Duryodhana, mais sa passion du jeu est telle que quand il voit le jeu devant lui et les dés à jeter, il ne peut pas résister. Alors on commence par jouer des choses anodines, un collier de perles, quelques bagues, et puis les enjeux augmentent peu à peu, on en vient à jouer ses troupeaux de chèvres, puis de vaches, puis d'éléphants, et chaque fois, Shakuni jette les dés et dit « j'ai gagné, j'ai gagné ». C'est une scène extraordinaire, une scène très longue, qui est une des scènes les plus célèbres de toute l'histoire du théâtre oriental, où peu à peu, l'assistance, qui était très animée au début, ce calme devient silencieuse devant l'extraordinaire attitude de Yudhishthira qui est comme en méditation et qui perd tout. Il perd son argent, tous ses coffres, toutes ses terres, tout son bétail. Il ne lui reste rien, rien que ses frères, lui dit Shakuni. Il te reste encore tes frères. Yudhishthira commence à jouer ses frères. Il joue les deux jumeaux, il les perd. Il joue le très puissant Bhima, il le perd. Il le perd, ça veut dire que ses frères deviennent des esclaves des autres, sont dépouillés de tout et tout nus, sont jetés dans un coin. Il perd Arjuna et finalement, il se joue lui-même, Yudhishthira, et il se perd. Il a tout perdu en une scène d'une complexité psychologique extraordinaire, car il ne faut pas oublier ce que je disais, c'est que Yudhishthira n'aime pas exercer la royauté. Et que peut-être a-t-il trouvé là l'occasion secrète d'y renoncer et de pouvoir enfin s'enfuir dépouillé dans les bois. Car celui qui perd doit partir 12 ans dans les forêts. À ce moment-là, Shakuni lui dit « Tu crois avoir tout perdu ?» Oui, lui dis-je. « Non, tu n'as pas tout perdu. Il te reste encore quelque chose. »« Quoi ?» lui dit Yudhishthira. « Il te reste une épouse. Il te reste Draupadi, qui est ta femme et celle de tes quatre frères, mets-la en jeu et regagne tout grâce à elle. » Yudhishthira, sentant sa dernière chance, joue encore une fois, c'est un suspense maintenu jusqu'à la plus extrême limite de la tension, et il perd Draupadi. Draupadi n'est pas là, elle n'assiste pas à cette partie. Elle est dans une pièce des femmes, quelque part dans le palais. On va la chercher. C'est Dushasana, l'âme damnée de Duryodhana, qui est chargée très brutalement d'aller la chercher. Allez, viens, il lui dit, il la prend par les cheveux, il la tire. Viens, tu as été gagnée au jeu, tu n'es plus désormais qu'une esclave. Comment? Gagnée au jeu? Elle lui dit, c'est pas possible. Qui m'a joué? Yudhishthira t'a joué. Et elle supplie, elle dit, mais ne me traîne pas devant les rois, regarde, ma robe est ensanglantée, je suis dans le jour de mes règles, ne me fais pas cette honte à moi. Et l'autre lui dit, tu n'es plus qu'une servante, on va t'envoyer laver les plats à la cuisine. On la tire et on la jette sur le sol devant cette extraordinaire assemblée où tous les rois sont là. Alors, elle se relève, elle a un moment d'une dignité et d'une lucidité qui va finalement sauver toute la famille, mais longtemps après. Et elle dit, j'ai une seule question à poser. Est-ce que Yudhishthira m'a joué et perdu après s'être perdu lui-même ou avant? Et on lui dit, mais non, il t'a perdu après s'être perdu lui-même. Alors elle dit, dans ce cas, s'est-on perdu lui-même? Avait-il le droit de me jouer? Alors on se trouve là devant une question dont les Indiens sont très très friands, car on peut là-dessus parler pendant des semaines sur une question pareille, en faisant appel à mille exemples dans le passé, mille traditions. On a trouvé ce qui est plus précieux que tout en Orient, c'est une question susceptible de faire travailler l'esprit, de l'obliger à aller jusque dans ses plus secrets retranchements. Alors une discussion extraordinaire s'engage là-dessus, sur cette question, un homme qui s'est perdu au jeu a-t-il le droit de jouer sa femme? Alors, certains disent que oui, certains disent que non, bien entendu. De toute manière, ça se termine par une malédiction épouvantable de Draupadi à l'égard des autres. Elle leur dit, toi, tu mourras comme ceci, tu mourras comme cela. Rien ne pourra effacer mes paroles, car elles ont été prononcées dans un moment de rage dû au fait qu'on a essayé de la mettre nue. Dushasana a dit, on va te mettre nue comme une esclave. Il s'est approché d'elle, a saisi son sari. Mais elle, par la force de son esprit et par une prière qu'elle adresse à ce moment-là à Krishna, se trouve tout à coup revêtu de ce qu'on appelle un sari interminable. C'est-à-dire que l'autre tire et tire et tire. Des monceaux d'étoffes s'accumulent sur le sol, au point que les hommes qui la déshabillent s'épuisent à la tâche, et elle reste toujours intacte, toujours vêtue, comme si on n'avait pas touché à sa robe. C'est une sorte de miracle accompli par Krishna, qui n'est pas là ce jour-là, qui n'assiste pas. Et c'est un miracle, si l'on veut, à distance. Voilà, la malédiction est lancée. Les Pandavas, Draupadi et quelques-uns de leurs amis s'en vont pour 12 ans dans la forêt. Au cours de ces 12 années, il va leur arriver des quantités d'aventures passionnantes sur lesquelles nous n'avons pas le temps en une heure de nous attarder. Nous allons faire ce saut, encore que ce soit bien dommage, car il est dit dans le Mahabharata, cette phrase qui vaut pour nous tous, Yudhishthira passe son temps à aller de lieu saint en lieu saint pour écouter des histoires. Tout simplement, il n'a rien à faire pendant 12 ans, donc il est très heureux puisqu'il n'est pas roi, il vit de peu, des gens viennent les visiter, et Vyasa, l'auteur du poème, qui est toujours présent, qui va leur rendre visite, car il connaît ces personnages, il est leur père, au vrai sens du mot, il est même leur grand-père, dit « il est très bon d'écouter des histoires, c'est agréable ». Et quelquefois, ça rend meilleur. Les 12 années d'exil dans la forêt s'achèvent. Ils ont été marqués par divers épisodes, dont un des plus importants est le voyage que fit Arjuna hors de ce monde pour conquérir des armes extraordinaires, des armes définitives, des armes de destruction totale. Et il est reçu de la main de Shiva lui-même, au sommet de l'Himalaya, avant de partir pour un voyage que nous appellerions aujourd'hui intersidéral. Donc, ces 12 années se terminent. Elles sont suivies d'une 13e année, au cours de laquelle ils ont dû vivre sous des déguisements, à la cour de notre roi, loin de l'Inde. Bref, maintenant, ils reviennent et ils vont devoir réclamer leur royaume, qui va leur être refusé. Maintenant, nous acheminons à chaque jour qui passe, vers le conflit. Et maintenant, je vais parler d'un personnage que j'ai laissé dans l'ombre jusqu'à maintenant, qui s'appelle Karna, qui est apparu au cours d'un tournoi dans la première partie et qui s'est révélé physiquement l'égal d'Arjuna, son grand rival obscur. Nous savons, nous, parce que Vyasa nous l'a dit dans le creux de l'oreille, que ce Karna est en réalité le frère secret des Pandavas, leur demi-frère. C'est un frère que Kunti a eu en secret du soleil. Karna est le fils du soleil. C'est pour cela qu'il a peur de la nuit, qu'il se sent mal à l'aise dans le noir. Et étant le fils du soleil, et étant un fils rejeté, non reconnu, bâtard, il va toute sa vie, malgré l'extrême qualité de son âme, vouer une espèce de sombre et irrésistible jalousie à ses demi-frères. C'est pour cela qu'il prend le parti, lui, guerrier très très redoutable, des Kauravas. Alors, du côté des Kauravas, nous avons non seulement Duryodhana et ses 100 frères, nous avons le vieux Bhishma qui a fait le vœu de ne jamais toucher une femme et qui, de ce fait, a reçu des dieux la permission de mourir le jour qu'il voudrait. Donc, il est invulnérable. Il est un grand combattant invulnérable. Nous avons Drona, le maître d'armes, qui a été engagé par Dhritarashtra, le roi aveugle, qui est le père des Kauravas, et qui donc reste fidèle à ce camp, et nous avons Karna. Nous avons vraiment une armée extraordinairement redoutable. Nous avons de l'autre côté les 5 Pandavas et quelques alliés. Au milieu se trouve Krishna. Krishna va faire tous ses efforts, après le retour des Pandavas, pour la paix, nous dirions aujourd'hui. C'est une sorte d'émissaire. Il y a même tout un chapitre qui s'appelle « Les ambassades de Krishna ». Tout en sachant au fond de lui-même, puisqu'il est une incarnation divine, que la guerre est inévitable, malgré cela, il fait tous ses efforts pour l'empêcher. Il va même jusqu'à, pour un instant, en une scène magnifique, rendre la vue au vieux roi aveugle pour se montrer à lui sous ce qu'on appelle sa forme universelle. C'est-à-dire cette forme divine qui englobe toutes les formes. Le roi Dhritarashtra en est ébloui, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il va empêcher ses fils de faire la guerre, car il est d'un caractère faible, entièrement soumis à l'ambition dévorante de Duryodhana. Donc, Krishna a fait tout ce qu'il a pu, il le dit, et maintenant, dans une scène capitale, il reçoit Duryodhana, chef des Kauravas, et Arjuna, commandant en chef des Pandavas et son beau-frère. Et il leur dit, voilà, j'ai des amis d'un côté comme de l'autre. Il est endormi quand ils arrivent. Il se réveille, il les voit tous les deux au pied de son lit, mais Arjuna est à ses pieds, Duryodhana à sa tête. Il se réveille et il dit, je ne peux rien vous refuser, ni à l'un ni à l'autre. Nous avons des liens de famille aussi étroits avec les Kauravas qu'avec les Pandavas. Mais comme il est très malin, Krishna, il dit à Arjuna, cependant, quand je me suis réveillé et que j'ai ouvert les yeux, c'est toi que j'ai vu le premier. La raison est que par humilité, Arjuna s'était mis à ses pieds. Non, c'est toi que j'ai vu le premier, c'est donc à toi de dire d'abord ce que tu choisis. Voici ce que je te propose. D'un côté, toutes mes armées, qui sont puissantes, bien entraînées, nombreuses. De l'autre côté, moi, seul et sans armes. Qu'est-ce que tu choisis ? Alors Arjuna, immédiatement, sans hésiter, lui dit, je te choisis, toi. Moi seul, sans tes soldats, lui dit Arjuna. À ce moment-là, Duryodhana, fou de joie, et ne comprenant pas exactement ce qui vient de se passer, dit à Krishna, mais j'ai donc tous tes soldats, j'ai donc toutes tes armées. Tu les as, lui dit Krishna. Il reste seul avec Arjuna, Duryodhana sort en criant de joie, et Arjuna lui dit, je veux que tu sois le cocher de mon char. Alors il y a bien entendu dans cette phrase un double sens. D'abord, c'est très important pour un combattant d'avoir un très bon cocher, en effet, pour diriger ses chars sur son char de combat. Mais de l'autre côté, il est bien évident qu'il y a là une notion de guide, de conseiller qui va beaucoup plus loin qu'une simple action militaire. Maintenant, nous passons sur le champ de bataille. La fameuse scène, mille fois représentée, les deux armées en ordre de bataille sont face à face. Et entre les deux s'avance le char d'Arjuna, conduit par Krishna, avec deux chevaux blancs, il faut l'imaginer. Arjuna est là pour donner le signal de la bataille. Le char s'arrête entre les deux armées. Arjuna lève sa trompe, son corps, nous dirions, pour donner le signal. Et au moment où il va souffler dans son corps, quelque chose en lui se brise. Ses jambes donnent des signes de faiblesse à lui, qui est maintenant un homme de plus de 40 ans, qui s'entraîne depuis sa plus tendre enfance pour ce jour-là, qui est un guerrier irrésistible. Tout à coup, ce sont ses muscles qui le trahissent. Ses jambes ne le tiennent plus, ses genoux fléchissent, comme si son corps lui disait quelque chose avant même que sa pensée l'ait réalisé. Et Krishna lui dit, mais que se passe-t-il? Pourquoi cette honteuse faiblesse? Et Arjuna lui dit, en montrant l'armée en face, mais regarde, ils sont tous là, mes parents, mon oncle Bhishma, tous ceux qui m'ont élevé. Comment pourrais-je tuer ma propre famille? Alors là, entre les deux armées, et pendant un long moment, Krishna suspend le temps et commence à donner à Arjuna ce fameux enseignement qu'on appelle la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. Gita, c'est le chant du Bhagavat. C'est le texte sacré le plus complexe, le plus dense, le plus fameux de tout l'Orient. Je ne peux pas, bien entendu, en donner tous les détours, tous les niveaux qui sont très riches, mais il faut dire quand même que, au cours de cette transmission, qui se fait là, sur le char, au milieu d'un champ de bataille, allégoriquement, la situation est passionnante et très forte, Krishna redresse Arjuna en lui disant d'abord qu'il doit suivre son dharma, ce pour quoi il est fait, qu'il doit agir. La Bhagavad Gita est souvent considérée comme un guide pour l'action. Il faut agir, mais pas n'importe comment. Il faut agir en oubliant les fruits de l'acte, sans espérer retirer de son action un bénéfice, quel qu'il soit. Il faut agir pour la droiture de l'action. Arjuna lui dit toujours, mais je ne peux pas tuer mes parents, je ne peux pas lancer cette guerre. Pour le convaincre, Krishna va beaucoup plus loin. Il commence alors à lui donner tout le système du monde qui est au centre même de l'hindouisme, de lui donner une vision complète des êtres et des choses. Et bien au-delà encore, ne parvenant toujours pas à convaincre Arjuna, là, sur son char, en présence des deux armées qui ne le voient pas, Arjuna est le seul à le voir, Krishna se révèle à lui, pour la deuxième fois dans le poème, sous sa forme universelle, qui est irrésistible. Et dans la bouche grande ouverte de Krishna, Arjuna voit toutes les armées du monde pénétrer, se détruire et renaître. Alors ce mouvement perpétuel, irrésistible, inévitable, qui est celui du jeu entre la mort et la vie. À la fin de la Bhagavad Gita, Arjuna se relève, souffle dans sa trompe et donne le signal de la bataille. Donc il faut bien voir que cette Bhagavad Gita, que l'on lit souvent isolée, hors de son contexte, est en réalité le centre, non seulement le centre géométrique, mais le centre de rayonnement de tout le poème. Tout y conduit et tout en part. Tout semble fait comme si, par exemple, nous avions une fleur avec un certain nombre de pétales et que le cœur de cette fleur soit la Gita. À partir de là, je n'ai plus le temps de vous raconter la bataille qui dure 18 jours, 18 étant, dans la tradition indienne, le chiffre sacré. Pas le temps, et d'ailleurs, c'est une bataille maintenant. Nous rentrons dans un récit militaire, stratégique, tactique, où tous les personnages, un après l'autre, du côté des Kaurava, vont mourir. Et d'abord va mourir Bhishma, celui qui ne pouvait pas mourir. Il va mourir parce qu'une femme qu'il a rejetée 60 ans plus tôt, parce qu'il ne voulait pas l'épouser, ayant fait le vœu de ne jamais toucher une femme, cette femme va revenir pour le tuer sur le champ de bataille. Et pourquoi aura-t-elle la force de le tuer? Parce qu'elle-même est passée par la mort. Elle s'est fait brûler sur un bûcher et les dieux lui ont permis de renaître sous un corps d'homme. Et sous ce corps d'homme, elle va pouvoir tuer Bhishma, qui va la reconnaître. On ne sait plus quel sexe il faut employer en parlant de lui ou d'elle, et il ne pourra pas résister à la flèche qu'elle va lui envoyer. Donc, du côté Kaurava, Bhishma va être la première grande victime. La seconde grande victime sera Drona, le maître d'armes, qui va à son tour prendre le commandement suprême et à son tour connaître la mort grâce à une terrible ruse de Krishna. Car Krishna, s'il ne prend pas part à la bataille d'une manière active, il n'a pas d'armes, a son esprit, a sa ruse, a sa voix. Drona a un fils qu'il aime beaucoup, qui s'appelle Ashvataman. Et il est en train de combattre sur le champ de bataille, férocement ce jour-là, dirigeant les armées, quand Krishna a une idée. Il dit à Yudhishthira, tu devrais annoncer toi-même très fort que Ashvataman est mort. Mais Yudhishthira lui dit, il n'est pas mort, je ne peux pas, moi, Yudhishthira, prononcer un mensonge. À ce moment-là, Bhima, son frère, dit, mais nous avons un éléphant qui s'appelle Ashvataman. Alors il sort, Bhima, il tue l'éléphant Ashvataman et il revient en disant « Ashvataman est mort ». Alors, la situation est très confuse, très drôle. C'est une des ruses de Krishna, bien entendu, qui a donné cette idée à Bhima. Drona arrive, entendant proclamer partout « Ashvataman est mort, Ashvataman est mort » et il s'adresse directement à Yudhishthira en le regardant dans les yeux et en lui disant « Toi, qui ne peux pas dire un mensonge, dis-moi la vérité, est-ce que Ashvataman est mort ?» Alors, il y a un moment de silence étonnant. Yudhishthira le regarde et dit « Ashvataman ». Il se détourne un instant pour murmurer entre ses lèvres « L'éléphant est mort ». Alors, c'est évidemment une scène très, très étonnante parce qu'après ça, Drona accepte ça comme une vérité, se laisse tuer immédiatement. Sa mort est là. Il ne peut pas résister à la mort de son fils. Et du même coup, c'est une scène qui nous dit que tout homme, si pur, si vertueux, si intègre qu'il soit, doit, s'il veut prétendre un jour être un roi complet, un Maharaja, doit passer par l'erreur et passer par le mensonge. C'est ce que la scène nous dit très indirectement. Le combat reprend le lendemain. Après Bhishma, après Drona, c'est maintenant au tour de Karna de prendre la direction des opérations. Ce redoutable, sombre guerrier, fils du soleil, à qui les rayons du soleil, chaque jour, apporte une force nouvelle qui prend la direction des forces des Kaurava et qui défonce les armées des Pandava au point que Arjuna lui-même ne veut pas lui résister. Que faire? Quelle ruse trouver? À ce moment-là, Krishna, toujours lui, se souvient que au temps de leur exil dans la forêt, Bhima, le magnifique, le très costaud Bhima, avait eu un fils d'une rakshasa. Une rakshasa, c'est une sorte de créature diabolique, mais avec des pouvoirs surnaturels, qui vivent dans les forêts. Ce fils s'appelle Ghatotkacha, et il a promis qu'un jour, si son père avait besoin de lui, il viendrait à son appel. Comme il est doué de pouvoirs surnaturels, il peut peut-être venir à bout de Karna. Alors, on évoque la terre, on appelle Ghatotkacha, la terre s'entr'ouvre, et un immense personnage noir, velu, terrifiant apparaît et dit à Bhima, tu m'as appelé, je suis ton fils, me voici, que veux-tu de moi? Et alors Krishna dit, il faut aller se battre contre Karna. C'est très difficile, car Karna est un combattant d'autant plus redoutable qu'il possède une lance qui, s'il l'envoie, doit nécessairement tuer quelqu'un, doit nécessairement tuer sa cible. Alors on assiste à un combat épique, le combat entre Karna et Ghatotkacha est longuement décrit, ils ont chacun des armes extraordinaires qui viennent des étoiles, qui viennent de tout un tas de forces inconnues, mais à un moment donné, Karna ne peut pas faire autrement que de se défaire de sa lance magique qu'il gardait pour Arjuna, qu'il gardait pour son rival numéro un. Donc, acculé, menacé de mort, conseillé, mal conseillé par les Kaurava, il lance cette fameuse arme irrésistible qui effectivement tue Ghatotkacha, qui la voit venir vers lui, qui sait que c'est sa mort qui s'avance, qui reconnaît le pouvoir mortel de cette arme et meurt. Alors, tout le monde est désespéré, Bhima pleure son fils, Yudhishthira, Arjuna pleurent le fils de leur frère et Krishna danse de joie. Alors, on se demande, mais on lui dit, mais comment Ghatotkacha est mort et toi, tu danses et tu ris? Oui, parce que ce soir, Ghatotkacha a tué Karna. En le dépouillant de cette arme irrésistible, maintenant il le rend accessible aux armes d'Arjuna. Il le rend en quelque sorte humain. La bataille se continue, Karna meurt à l'épisode suivant, et Karna meurt d'une façon très belle, parce que il est opposé à Arjuna, et comme ils sont deux guerriers d'égale valeur, chacun sur son char avec ses cochers, on dit même que ce jour-là, Shiva est devenu le cocher de Karna, Shiva lui-même, comme Krishna était celui d'Arjuna, donc nous avons les deux dieux sous des déguisements de cochers qui s'affrontent. Mais Karna, longtemps auparavant, avait commis une erreur, et il va la payer ce jour-là. Il faut se rappeler maintenant que au tout début, nous avons parlé de Bhumi, la terre, notre déesse mère, notre porteuse, notre enfanteuse, qui se sent en danger à cause de toutes ces armes qui risquent de la détruire. À un moment donné, au cours de la bataille, tout à coup, la roue du char de Karna tombe dans une ornière de boue. Et Karna descend, veut la tirer, il est très costaud, avec ses deux bras, la roue résiste. Il tire encore plus fort, il ne peut pas dégager son char. Sans son char, il ne peut pas combattre contre Arjuna sur le sien. Tout le monde regarde cette scène étrange, très célèbre en Inde et mille fois représentée, de Karna essayant d'arracher la roue de son char. Alors Krishna s'approche de lui très doucement, parce qu'il a une véritable estime pour lui, bien que sachant qu'il va mourir, et lui dit: inutile de t'acharner sur cette roue. Je vais te dire qui a saisi la roue de ton char. C'est Bhumi elle-même, avec ses mains boueuses. C'est la terre qui tient ton char et tu ne pourras jamais le lui arracher. La terre, en quelque sorte, se venge en aspirant, en retenant près d'elle avec ses mains pleines de boue, un des plus redoutables des guerriers. Et en effet, Karna comprend, il essaie vainement, en un dernier geste, de rappeler à lui une formule magique apprise autrefois, il ne peut pas se la rappeler et Arjuna le tue. Donc peu à peu, le succès des Pandavas s'affirme. Duryodhana, à son tour, va prendre le commandement suprême. Il va à son tour être tué par Bhima, cette fois, à l'endroit même, c'est-à-dire à la cuisse, où Draupadi avait dit qu'il serait frappé, quand elle l'avait maudit, et nous nous trouvons maintenant à la fin de la bataille. Indiscutablement, les Pandavas ont gagné. Tous les Kauravas sont morts, les 100 frères et tous leurs alliés, tous ceux qui s'étaient joints à eux. Les 5 Pandavas sont vivants, mais ils n'ont plus de fils. Tous sont morts. Maintenant, le champ de bataille est couvert de, dit-on, 18 millions de morts. Un chiffre hallucinant. Les femmes vont d'un groupe à l'autre en cherchant leur père, leurs époux, leurs enfants. Il y a une grande scène de désolation. Après quoi, Yudhishthira, le moment étant venu, prend le chemin du palais où il va enfin être roi. Après toutes ces épreuves qui ont duré toutes les années de sa jeunesse, de sa formation, les 13 ans d'exil, les années de préparation à la guerre et toute la guerre, finalement c'est un homme de près de 50 ans qui va monter sur le trône. Il aura fallu tout cela pour qu'il devint véritablement un roi. Il a fallu qu'il passât par l'épreuve du mensonge, par celle du sacrifice de ses enfants, des enfants de ses frères. Il a fallu qu'il connût tout ce qu'un être humain peut connaître pour qu'à la fin, il accepte de s'asseoir sur le trône et d'exercer le pouvoir. Il va l'exercer d'ailleurs pendant 36 ans, c'est-à-dire pendant une durée relativement longue, et il l'exercera très très bien. Personne n'aura à se plaindre de lui, avec l'aide de ses frères. Pendant 36 ans, le monde connaîtra une période de paix qu'on n'avait pas rencontrée, à vrai dire, depuis assez longtemps. J'ajoute simplement, en petite parenthèse, qu'à la fin de la bataille, dans ce moment de désolation, Arjuna s'approche de Krishna et lui dit « Mais tu m'as dit quelque chose au début de la bataille, la Bhagavad Gita. » Ce que nous appelons la Bhagavad Gita. Tu m'as dit quelque chose, j'ai oublié. Qu'est-ce que c'était exactement ? Et Krishna le regarde et lui dit, non, je ne peux rien dire deux fois. Et il le quitte. C'est ce qui me fait dire souvent que le Mahabharata, cet immense fleuve, est aussi d'une certaine manière un poème de l'oubli. Qu'avons-nous oublié de nos origines ? Tout poème épique nous montre des personnages qui sont des demi-dieux, dont l'un des géniteurs est un dieu et qui, à un moment donné, empêtré dans les problèmes sanglants de la terre, oublie leur origine divine, oublie leur responsabilité à l'égard de la terre qui les porte, à l'égard de l'univers qui les entoure, oublie leur dharma au profit d'intérêts strictement individuels, souvent. Et même quand une fois l'enseignement suprême leur est donné, ils l'oublient. À plusieurs reprises, au cours du poème, Vyasa doit rappeler à ces personnages qui ils sont, et à plusieurs reprises, on lui demande « Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Qu'avons-nous oublié? Avons-nous oublié qui nous sommes ?» Oui, en grande partie, ils l'ont oublié. La guerre est maintenant terminée, il ne reste à Krishna qu'à mourir. Et il meurt très simplement. Ce personnage, tellement important dans le Mahabharata, meurt en trois lignes. Un jour, il se promène dans la forêt, il se couche sur le sol, passe un chasseur qui prend ses pieds pour les oreilles d'un animal, tire une flèche et tue Krishna. C'est tout. Maintenant, nous allons devoir vivre sans lui. Son rôle étant terminé, la bataille étant gagnée, en quelque sorte, l'avatara de Vishnu s'efface. Avec une discrétion exemplaire. Les personnages restent seuls, vieillissent, ils atteignent, selon les calculs que l'on fait, un âge qui est entre 80 et 100 ans. On peut même raconter, si on a encore le temps, le fait que Arjuna, après la mort de Krishna, apprend que des troubles ont éclaté là où Krishna vivait. À Dvaraka, dans la ville où il habitait, que même les femmes de Krishna, qui étaient très très nombreuses, 15 000 je crois, étaient en révolte, abandonnées, qu'il y avait des troubles. Il décide de lui, Arjuna, avec ses hommes, d'aller recueillir ce qui reste de son ami mort et de le ramener chez lui, dans la ville de Hastinapura. Il a plus de 80 ans, mais il est Arjuna, un héros magnifique, on peut imaginer, avec des magnifiques cheveux blancs, un grand catogan derrière, splendide. Il va, là, il recueille ces milliers de femmes et les ramène en un très très long convoi vers sa capitale, la capitale où règne son frère. En cours de route, en traversant des montagnes, ils sont attaqués par des brigands. L'arrière-garde, si l'on veut. Arjuna, qui est en tête, apprend que des brigands ont osé l'attaquer, lui. Arjuna a attaqué son convoi. Alors, avec son char, il va jusqu'à la queue du convoi, il prend son fameux arc Gandiva, et là, il ne peut plus le bander. Il ne peut plus tendre la corde de son arc assez fortement pour tirer une flèche décisive. Et l'histoire dit, avec cette ironie dévastatrice qui est le propre des grandes œuvres, que les femmes de Krishna partaient dans les montagnes avec les brigands en riant. Le Mahabharata est un poème composé en 18 chants. Le dernier chant raconte la fin des 5 Pandavas. Très âgés, ils décident un jour, tous les 5, avec Draupadi, qui leur est resté fidèle, de quitter leur royaume pour monter vers les hautes montagnes où se tient le paradis. Ils s'en vont, tous les 5, et en cours de route, un chien les accompagne, se joint à eux. Ils essaient de le repousser, mais le chien reste toujours avec eux. Et en cours de route également, tout à coup, Draupadi tombe dans un gouffre. On est dans l'Himalaya, on est dans des territoires très très durs. Impossible de la sauver. Un peu plus loin, ce sont les deux jumeaux qui tombent. Et puis Bhima lui-même, et puis Arjuna lui-même tombent dans des gouffres et disparaissent. Yudhishthira arrive seul devant la porte du paradis, seul avec ce chien qui est à côté de lui. Il fait froid, c'est glacé, et il frappe à la porte et il entend une voix qui lui dit « Qui es-tu ?» Il dit « Je suis Yudhishthira ». La voix lui dit « Oui, tu as le droit de rentrer ici, laisse ce chien et rentre. » Et Yudhishthira dit « Pourquoi devrais-je laisser ce chien qui m'a accompagné jusqu'ici depuis la ville ? Non, je ne l'abandonnerai pas. » En ce cas, lui dit la voix, tu n'as pas le droit de rentrer. Tu resteras très bien, je reste dehors avec mon chien. Il y a une discussion très étonnante où au dernier moment, cet homme parfaitement accompli, très âgé, refuse de laisser ce chien qui tremble de froid dans ses bras. Alors, la porte s'ouvre et une voix lui dit, entre. Ce chien n'est pas autre chose que Dharma, ton père. Il a pris la forme de ce chien pour t'éprouver jusqu'au dernier moment. Rentre, viens. Il rentre dans le paradis et à son immense surprise, les premières personnes qu'il rencontre, ce sont ses anciens ennemis. Duryodhana, Dushasana, souriant, buvant du vin, couvert de fleurs, il l'accueille. Il dit, mais je ne comprends pas, mais ils sont ici, eux, qui ont été si agressifs, si ambitieux, si méchants. Oui, ils sont ici, lui dit une voix. Mais alors, où sont mes frères ? Tu veux voir tes frères ? Viens, on va t'y conduire. On l'amène dans des puits, dans des cavités puantes, visqueuses. Et là, il voit ses frères et Draupadi captifs et torturés. Il ne peut pas comprendre. Il y a un moment où, c'est une des dernières pages du poème, où tout à coup Yudhishthira explose de rage et de colère, maudit les dieux, les accuse d'exister, accuse la suprême injustice divine qui a fait des méchants des heureux et qui a fait de ses frères qui l'ont toujours servi avec fidélité des torturés pour l'éternité. À cette immense colère répond un rire discret et on voit apparaître Ganesha, que nous connaissons depuis le début, et qui lui dit « Allons, viens ici, il n'y a plus de bons, plus de méchants, il n'y a plus de punis, il n'y a plus de récompensés. » Ses frères réapparaissent, souriant eux aussi, se joignent à tout le monde s'assied, et Ganesha termine en lui disant « C'était la dernière illusion. » Le poème se termine presque sur ces mots. J'ai volontairement laissé de côté, n'ayant pas le temps, un certain nombre de personnages. Je voudrais juste dire un mot d'une autre femme qui s'appelle Gandhari et qui est la femme du roi aveugle, Yudhishthira. Nous l'avons suivie juste pendant toute l'histoire et nous la retrouvons au paradis. C'était une jeune princesse qui devait épouser un roi. On ne lui avait pas dit qu'il était aveugle. Quand elle arrive dans la ville, c'était 75 ans plus tôt, elle envoie sa servante pour repérer un peu ce qui se passe, les préparatifs de la fête, les rideaux, les tapis, les fleurs. Et la servante revient en larmes. Elle lui dit, mais pourquoi pleures-tu? Et la servante lui dit, Majesté, j'ai vu le roi, j'ai vu votre futur époux. Il est beau, il est fort, mais il est aveugle. Gandhari lui dit, aveugle, mais ce n'est pas possible. Un roi ne peut pas être aveugle. Un roi aveugle ne pourrait régner que sur la nuit. Il ne pourrait régner que sur les monstres qui sont hors de notre portée. Il ne pourrait régner que sur un peuple déchiré, un peuple qui n'est plus un peuple. Et la servante lui dit, je l'ai vu, il est aveugle de naissance, il ne guérira jamais. Alors Gandhari s'est fait apporter par sa servante un bandeau de soie noire qu'elle a noué sur ses yeux. Que faites-vous ? Lui dit sa servante. Je prends cette soie, je la noue sur mes yeux, je ne l'enlèverai jamais. Ainsi, mon époux ne pourra jamais me faire reproche de mon malheur. Et toute sa vie, et même après sa mort, elle a gardé ce bandeau noir sur ses yeux. Elle a toujours marché à côté de son époux, main dans la main, comme deux aveugles. Et dans cette image d'une femme qui s'est volontairement fermée les yeux, à côté d'un époux roi du monde et réellement aveugle, il y a une de ces images inoubliables que nous laisse le Mahabharata.